L'EM. L'émission. L'émission. Sur Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans L'EM, l'émission quotidienne de Radio Évasion, en direct à midi, rediffusée à 18h. Notre partenaire du jour, c'est le réseau rural et paysan du Finistère, le CIVAM, qui nous a recommandé notre invité par téléphone, Dominique Bourdon, et paysan boulanger à Tréal, dans le Morbihan. Sa ferme de Baudeliguin, c'est une surface de 12 hectares qui vise à l'autonomie en assurant toutes les étapes du processus de la fabrication du pain, donc la culture et le stockage des céréales, avec plusieurs variétés de blé tendre, du seigle, du sarrasin, du lupin, du colza. Il y a aussi la transformation de ces graines en farine, la fabrication du pain, bien sûr, pétri à la main, cuit dans un four chauffé au bois, et la vente directe de la production. Le tout avec une grande exigence de protection des milieux naturels. La ferme de Baudeliguin est donc non seulement bio, mais aussi labellisée Nature et Progrès depuis 2013. Et surtout, et c'est le sujet de notre émission du jour, Dominique Bourdon utilise la traction animale pour cultiver sa terre, et il est même formateur en la matière. Bonjour Dominique Bourdon.
Bonjour.
Alors donc vous me disiez, avant, en préparant cette émission, que la traction animale, ce n'est qu'une partie de la traction que vous utilisez, c'est ça?
Oui, tout à fait, oui.
Alors comment vous l'utilisez, cette traction animale, en ce qui vous concerne, vous?
Alors, pour ce qui me concerne, elle a été beaucoup utilisée sur la ferme au début du projet. Et à un moment donné, il a fallu faire des choix pour différentes raisons, hein, physiques déjà, et puis aussi parce que le terrain sur la ferme ne s'y prête pas. Ma ferme, c'est du vrai gruyère, donc c'est des terres dans un rayon de 4 km autour des bâtiments. Donc voilà, et puis à un moment donné aussi, il y a deux bras qui sont partis de la ferme, donc il ne restait plus que les deux miens. Donc voilà. Donc au départ, une grande utilisation de la traction animale avec des chevaux pour tout ce qui était déjà travaux de cours de ferme, donc ce qui est important.
C'est quoi les travaux de cours de ferme?
Pour alimenter mes propres animaux. Mm-hmm. Le débardage, débuscage aussi pour alimenter le four à pain et puis chauffer la maison.
Donc les
donc,
arbres,
ça,
en fait, c'est ça.
Déjà beaucoup de travaux avec les animaux, quoi, dans un premier temps. Et là, ça a évolué au cours du temps pour s'adapter à la réalité du moment, donc au manque de bras sur les fermes. Et donc je poursuis toujours, mais je fais plus appel quand même pour tout ce qui est grande culture à une entreprise de travaux agricoles.
Et alors,
je maintiens tout ce qui est travaux de cours de ferme, travail autour du bois en partie. Et là, n'ayant plus de chevaux en ce moment, je travaille uniquement avec des ânes. Donc c'est pareil, là, c'est une réflexion autour de l'énergie et notamment de la moindre consommation d'énergie dans le cadre des travaux, voilà, qui m'intéresse en ce moment.
D'accord. Alors vous avez, qu'est-ce que vous utilisiez comme chevaux quand vous aviez des chevaux? C'était des traits bretons ou des postiers?
Voilà, c'était deux traits bretons. J'avais toujours deux traits bretons en même temps. Donc il y a eu quand même un certain nombre de chevaux à passer à la maison. Et donc après, c'est le choix de travailler avec un seul cheval ou deux chevaux en fonction de la nature des travaux et de la puissance requise pour ces travaux, quoi.
Et pourquoi est-ce que vous aviez cet intérêt, cette appétence, ce choix de la traction animale?
Ah, ça c'est... Alors moi je suis de formation électrotechnicien, mais je suis quelqu'un qui n'aime pas consommer, ou le moins possible. Et donc, il y a longtemps que j'aurais réfléchi sur l'accès à l'énergie et dont on va, à mon avis, manquer dans les temps qui viennent. Je ne sais pas à quelle échéance, mais il est grand temps d'y réfléchir. Donc, mon choix s'est porté sur la traction animale pour, cette raison-là, un côté énergétique. Et puis, parce que c'est la rencontre, à un moment donné, avec le cheval. J'ai toujours eu une attirance depuis gamin pour les chevaux. Mais la famille n'avait pas les moyens qu'on approche trop les chevaux, d'un point de vue financier. Mais quand j'ai pris mon envol, à un moment donné, j'ai rencontré des agriculteurs qui, eux, faisaient plus dans le spectacle équestre et l'animation, mais avec des chevaux de trait à côté de chez moi. Donc quand je suis arrivé sur ce secteur, parce que je suis natif du Nord, Ille-et-Vilaine, et là, en Morbihan, j'ai rencontré ces personnes et ça m'a scotché littéralement. Il y avait 30 chevaux de trait chez eux. Et quand moi, je suis arrivé sur cette ferme, je leur ai demandé s'ils formaient des personnes. Et là, eux cherchaient à mettre une équipe en place pour les aider. Parce que quand vous partez sur une manifestation avec une quinzaine de chevaux, il faut être du monde. Et donc, je les ai suivis pendant quelques années. Et là, je me suis dit, il faut que j'achète un cheval. Et une fois que le cheval a été là, c'était pour le loisir. Et puis, je me suis dit, mais non, il ne va pas faire que du loisir. Je ne vais pas payer à m'acheter un tracteur, payer l'entrepreneur pour faire les travaux. Donc, j'ai mis du matériel agricole derrière. Et puis, c'est parti. Ça a commencé comme ça en 96.
Et vous aviez une formation à la traction ou vous avez appris sur le tas, comme on dit ?
Eh bien, les deux. Donc, ces personnes-là, même si elles étaient dans le domaine du spectacle, elles avaient quand même une bonne connaissance dans le domaine agricole parce que c'était des agriculteurs. Donc, j'ai commencé à apprendre avec eux en 92. Et puis après, en 96, j'ai pris mon cheval. Et puis là, je me suis auto-formé. Mais tout en allant rencontrer quand même régulièrement des personnes qui pouvaient m'apporter les manques pour pouvoir avancer, quoi. Donc, j'hésitais pas à aller un peu partout en France pour rencontrer des personnes et avancer sur le sujet.
Et alors, vous avez... c'est difficile de savoir combien de personnes, combien d'agriculteurs et d'agricultrices utilisent la traction animale en France, mais vous avez une idée un peu de... Est-ce que c'est un phénomène qui connaît un regain
Là, c'est compliqué. Moi, je ne peux pas faire d'études au niveau français sur le sujet. Il semble qu'il y a un intérêt. Après, c'est pareil. Il y a un certain nombre d'agriculteurs qui, comme moi, ont des chevaux. Moi, je me définis comme étant expérimentateur en traction animale. Je suis utilisateur, mais pas à 100%. Je n'en ai pas la capacité aujourd'hui, non pas matérielle, mais humaine. Aujourd'hui, sur nos fermes, on voudrait faire, pour ma part, ce qu'il aurait nécessité trois personnes pour faire ce travail. Donc, au bout d'un moment, je me suis dit que je ne suis pas un surhomme non plus, même si mon idéal est ailleurs, mais voilà. Et donc en France, il y a beaucoup de gens qui, comme moi, un certain nombre de personnes qui, comme moi, utilisent la traction animale quand ils peuvent, quand ils ont le temps, pour certains travaux avec lesquels c'est plus aisé, mais qui conservent quand même un savoir-faire. Et ça, c'est ce qui, pour moi, est le plus important aujourd'hui, plutôt que la quantité de travail réalisé avec. Ce que je peux dire, c'est que, par exemple, au niveau des bardages, il y a encore des débardeurs, mais ils ont de plus en plus de mal à trouver du travail parce que la profession a beaucoup évolué avec un machinisme de plus en plus gigantesque. Et certains ont abandonné parce qu'on leur laisse que du travail qui est peu intéressant et peu rémunérateur, quoi. Et en Belgique, ça a diminué aussi énormément. Donc, est-ce qu'il y a un intérêt en ce moment ? Oui, j'ai envie de dire un petit intérêt quand même. Je le vois par les formations que j'anime, donc des gens qui se posent la question, voilà, et qui viennent découvrir.
Et est-ce que vous pourriez nous expliquer la traction animale ? Parce que là, vous avez parlé des chevaux, vous avez mentionné les ânes, mais j'imagine qu'il y a aussi les bovins. Enfin, quels sont les différents types d'animaux qu'on peut utiliser et les différents types de travaux qu'on peut leur faire réaliser en agriculture ?
Alors, pour les différents types d'animaux, alors là, on va faire un petit tour en France. Bon, on a bien sûr les chevaux qui sont majoritaires, les ânes, et puis après les bovins, principalement les bœufs. Donc ça, c'est pour la France. Maintenant, il y avait une conférence mondiale sur la traction animale il y a 15 jours, et je l'ai suivi. Mais au niveau mondial, on va retrouver tous les bovins. Et il y a une panoplie de bovins différentes suivant les pays. On va retrouver les dromadaires aussi, dromadaires chameaux, les éléphants, c'est impressionnant. Et quand on regarde même à travers les siècles, il y a eu les chiens qui ont beaucoup participé et qui participent encore dans certains pays. Donc là, voilà, le panel d'animaux est large. Après, le choix des animaux va se faire en fonction de nos affinités avec les animaux déjà, nos compétences. Je pense à quelqu'un qui a une ferme avec des bovins, qui se sent très à l'aise avec des bovins, il va sûrement avoir peut-être une préférence pour atteler des bovins. Après, il y a un autre paramètre qui est important c'est dans ces choix, c'est il y a l'affinité 1, il y a un côté économique aussi, parce qu'on ne se rend pas compte, mais entretenir des chevaux, il faut vraiment qu'ils envoient du boulot, parce que ça a un coût quand même important en termes 1 d'entretien et 2 de harnachement. Un bœuf, l'entretien, si on prend des bovins, parce qu'il n'y a pas que les bœufs, ça peut être des vaches, donc ils sont ferme, ils peuvent avoir une production laitière à côté. Et en termes de harnachement, ben, c'est beaucoup plus, l'investissement est beaucoup moins lourd à porter. Voilà. L'âne, ben, chez nous, il est pas mal utilisé, hein, notamment en maraîchage. Et pour moi, c'est le compagnon du maraîcher, l'âne, de par...
Qu'est-ce qu'on lui fait faire à l'âne ?
De par travail, de par aussi ses petits pieds.
Ah oui, qu'est-ce qu'il fait exactement ? Qu'est-ce qu'il fait l'âne exactement ?
Passages entre rangs très, 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 très étroits, quoi.
Ah oui, c'est pour la récolte, alors, c'est ça ?
Bah pour la récolte, l'entretien des cultures aussi, hein. L'entretien entre rangs. Donc ça, c'est pour moi, c'est presque c'est l'animal du maraîcher, l'âne. Quoi.
Ah ouais, on lui met comment ça ? On le fait entretenir comment ? On lui met quel genre d'outils, alors, à tracter ?
Ah bah tous les outils qu'on peut imaginer, hein, du moment que la puissance de traction soit adaptée à sa morphologie. Hein. Donc ça peut être une bineuse pour aller biner entre des rangs de carottes ou de fraises ou de ce que l'on veut, hein, jusqu'à des outils aratoires, effectivement, de travail de sol, hein, des charrues, la herse, tout. Maintenant, des outils qui vont être effectivement dimensionnés pour sa puissance de traction. Quoi. Donc ça va être des outils plus petits, bien sûr, que pour un cheval ou un bœuf, bien sûr. Hein. Un petit peu plus de temps.
Et quand c'était des chiens, quand on utilisait des chiens, c'était pour faire quoi ?
Alors, c'est marrant parce que sur ce colloque-là, il montre pas mal de photos et d'images d'époque. C'était beaucoup pour le transport. Il y avait les chèvres aussi qui étaient utilisées, hein, pour le transport. Moi, je me rappelle en avoir vu en arrivant sur le secteur. Alors, c'était plus pour la kermesse, mais ça veut dire qu'on avait un charron encore à Tréal en retraite. Alors, moi, je suis arrivé ici en 92. Et il avait encore fabriqué quelques remorques pour des chèvres. Donc c'était principalement les chiens, comme aujourd'hui, hein, c'est pour le transport. Hein, vous prenez les huskies sur l'épaule là, pour promener des traîneaux. Hein. Donc à l'époque, c'était des chiens beaucoup pour la collecte du lait. Et pour tout ce qui était petit transport pour aller au marché, par exemple, pour emmener quelques denrées à vendre sur les marchés.
Et vous avez évoqué l'équipement, justement. Évidemment, pour harnacher les animaux, il faut des équipements spécifiques. Est-ce qu'il y a encore des artisans qui les fabriquent ?
Ah oui ! Alors, il faut bien dire que pour tout ce qui est matériel, tout existe. Tout existe. Si ce n'est pas en France, c'est à l'étranger. Mais on peut trouver tout ce dont on a besoin, à condition d'avoir le portefeuille de bien vouloir investir. Quoi, hein, parce qu'un des problèmes aujourd'hui, là, traction animale, c'est que pour certains, ça ne coûte rien. Bah, c'est faux. C'est faux, ça a un coût, hein, déjà un coût d'investissement dans des animaux, dans un ou des animaux, un coût d'entretien, et puis après, y a un coût matériel, donc un coût pour le harnachement, un coût pour le matériel que l'on va faire tracter, que ce soit remorque, outil aratoire. Ça ne coûte pas rien, la traction animale.
Et non seulement ça ne coûte pas rien, mais vous nous l'avez laissé entendre, on ne peut pas laisser l'animal tout seul se débrouiller, donc il faut être un humain avec, ou plusieurs peut-être. Enfin, comment ça se passe ? Qu'est-ce qu'il faut apprendre ? Qu'est-ce qu'il faut faire quand on est humain ?
Ah oui, alors là c'est intéressant parce qu'on est dans un monde, aujourd'hui, je parle en Occident entre autres, de plus en plus déconnecté avec la réalité agricole. Et donc, autrefois, les personnes apprenaient à vivre avec des animaux au quotidien. Donc, il y avait quelque chose qui se transmettait, qui était naturel. Alors, plus ou moins bien vécu des fois, plus ou moins bien perçu. Mais quand même, il y avait des mécanismes qui se mettaient en place. Alors, aujourd'hui, pour beaucoup de personnes que moi je reçois, il n'existe pas ces mécanismes. Donc moi, ce que je leur propose déjà dans un premier temps, dans les formations, là, c'est de réapprendre à vivre avec l'animal. Hein? Donc ça, c'est une première chose, parce que le travail avec l'animal est bien lorsqu'il y a une connivence entre la personne qui le mène et l'animal. Donc c'est un travail qui demande un certain temps. C'est comme la formation d'un couple, hein? Ça ne se fait pas en 30 secondes, comme ça ne se décrète pas. Donc il faut que chacun y mette de la bonne volonté. Et puis, ça se fait avec le temps. Donc, pour moi, c'est la première chose quand on veut travailler avec des animaux, c'est d'abord, un, d'aimer des animaux. Première chose, faire le choix des animaux qui nous conviennent le mieux, en termes de choix, ânes, chevaux, bovins. Et puis ensuite, c'est d'apprendre à vivre, à passer un temps avec eux, parce qu'il va falloir s'en occuper au quotidien, quoi, hein, et 365 jours par an. Donc, c'est du bonheur, mais pour certains, si c'est une contrainte, il ne faut pas commencer. Et ouais, voilà un petit peu ce que je demande, ce que je propose au départ. Et puis après, ben, une fois qu'ils vont avoir appris à les soins, les différents soins qu'il y a à faire en termes alimentaires, en termes de pansage, d'entretien des pieds, ben après on va découvrir le harnachement en fonction du type de travaux qu'on va faire, le menage, comment est-ce qu'on va leur donner des directions, des consignes. Et puis après, on va s'intéresser en dernier lieu aux outils, parce que les outils, ce n'est pas ce qu'il y a de plus important, comme je vous ai dit. Ça, il y en a plein les catalogues. Si les gens qui commencent par aborder la traction animale à travers l'outil, ben non, on commence par le moteur. Et le moteur, c'est l'animal. Donc je commence, il y a une progression où on s'intéresse avant tout à l'animal, et puis après, ben, on va voir comment fonctionnent les outils.
Et le couple animal-homme, combien de temps vous diriez qu'il faut pour que ça devienne un attelage efficace ?
Alors là, ça va dépendre énormément de l'animal et de la personne. On ne peut pas faire des statistiques. Il y a des gens avec qui, et des animaux avec qui ça allait très vite. J'ai vu des trucs surprenants. Je me rappelle d'un monsieur qui a fait Saint-Jacques-de-Compostelle. Il n'avait jamais attelé un cheval. Il est allé au marché aux chevaux à côté de chez lui. Il a acheté une jument qui n'avait jamais travaillé. Il lui a mis un harnais sur le dos, la roulotte. Il est allé à Saint-Jacques. Il a fait l'aller-retour. Incroyable. Mais bon, c'est le cas exceptionnel. Il avait la foi, sans doute, et le cheval avec. Et ça s'est très bien passé parce qu'il y avait la femme et les enfants avec. Mais voilà, c'est vraiment le cas exceptionnel. Après, en règle générale, on dit que pour former un animal, il faut environ un mois. Mais après, entre avoir un animal un peu éduqué et que les choses se passent de manière naturelle avec l'animal, bah, c'est un travail du quotidien, quoi. Et plus nous travaillons au quotidien avec nos animaux, mieux ça se passe. Ce qui fait qu'ils vont bien travailler, c'est la répétition. C'est la répétition. Moi, comme je disais, quand j'ai vendu mes chevaux, j'ai dit, écoute, il n'y a qu'une chose que je ne leur ai pas apprise, c'est à lire. Autrement, j'aurais eu juste à noter les consignes sur le tableau pour qu'ils fassent le boulot le matin, quoi. Mais quand je prenais mes chevaux, ou quand je prends mes ânes aujourd'hui, c'est pareil, voilà, les travaux réguliers, mais ça marche tout seul, quoi. Ils savent que là, on va tourner là, on va reculer là, qu'on va se mettre en position comme ça, que voilà. Mais s'il reste dans un champ ou dans l'écurie, bah, ça n'avance pas. Voilà. Et donc ça demande un travail du quotidien. Je ne dis pas tous les jours, parce qu'on n'a pas forcément le temps tous les jours, mais de manière très régulière quand même, quoi.
Et puis il y a les soins spécifiques, hein, c'est ça ? C'est-à-dire qu'il faut peut-être faire un petit peu de kiné pour ces animaux ou je ne sais quoi
Excusez, j'entends très mal là.
Oui, je disais, il y a peut-être aussi des soins spécifiques pour justement épargner les animaux, peut-être presque de la kinésithérapie pour animaux, je ne sais pas, qu'est-ce que vous leur proposez aux animaux ?
Oh là, moi, la meilleure récompense pour eux, c'est de les laisser tranquilles. Donc moi, quand j'ai fait ma journée, bah, mon temps de travail avec eux, si j'ai une carotte sous la main, je leur la donne des fois, quand j'en ai pas, de toute façon, la meilleure récompense pour eux, c'est de les remettre au champ. Et y a là, pas... Ils vont se rouler, ils vont boire un coup s'ils ont soif, ils vont pâturer et voilà.
Il n'y a pas besoin de leur faire des massages.
C'est principalement l'entretien des pieds, d'accord, l'entretien du corps, à part qu'ils aient pas de blessures. C'est pour ça qu'on fait ce qu'on appelle un pansage avant d'aller au travail. C'est-à-dire qu'on les étrille, on regarde s'il n'y a pas de marques sur le corps dues à un problème de harnais ou s'ils se sont fait mal. Parce que des fois, entre eux, ils ne sont pas forcément sympathiques. Ça se mord, ça se tape. Donc, voir s'il n'y a pas de coups. Et puis, voilà. Alors, après, parfois, il y a des animaux pour lesquels, effectivement, il y a des soins spécifiques. Il y a des ostéopathes, il y a des dentistes, il y a une panoplie de professions autour de l'animal en cas de problème. Mais je sais qu'à la maison, je n'ai jamais eu de soucis à ce niveau-là, quoi. Mais mes frais vétérinaires sont très, très limités, on va dire.
Et un animal qui fait de la traction, et il peut faire de la traction pendant combien d'années ? J'imagine que ça dépend aussi des animaux, mais...
Ouais, ça dépend de la durée de vie moyenne des animaux. Je vois, un cheval, lui, il peut vivre jusqu'à 25 ans. Après, il y a toujours des cas qui vont plus loin, mais un âne, je crois que c'est 30, 35 ans. Après, bah, ça va dépendre de ce qu'on lui a demandé durant sa vie. On peut user du cheval. Si on leur demande de travailler 8 heures par jour... sur des travaux durs, ils vont être, c'est comme un être humain, entre celui qui qui a un travail tranquille et celui qui monte du parpaing ou je sais pas, qui travaille à l'usine à des cadences infernales, bah, l'usure sera pas la même, quoi. Hein. Donc on retrouve la même pour nos animaux. Hein. Je pense que les chevaux qui font du débardage ou de l'arrachage d'indésirables, c'est des travaux très durs, quoi. Hein. Donc la capacité de travail physique sera plus courte dans le temps, quoi. Hein. Ce qui est normal, quoi. Hein. Alors qu'un animal qui va faire même un animal qui travaillera tous les jours en labour, c'est un travail finalement qui va demander de la puissance, mais c'est l'effort est moins violent que dans certains types de travaux comme le débuscage, l'arrachage des irables par exemple. Ouais, après celui qui tire que de la voiture, est-ce qu'il va tirer ou pas, est-ce qu'on va lui demander d'être rapide sur quel substrat, si c'est du bitume, les genoux ils vont prendre dur. Donc voilà, j'ai pas de réponse. Ça va dépendre de la nature du travail, du temps de travail. Voilà, mais ils peuvent nous rendre quand même de bons services très longtemps. Hein. Mes chevaux, ils travaillent encore. Ils ont 20 ans. Hein. Voilà.
Et qu'est-ce que vous diriez
donc,
aussi?
Si on en prend soin, ils peuvent aller longtemps.
D'accord. Et alors, donc il faut prendre soin des animaux, évidemment.
Enfin,
faut que chacun soit à sa place. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme exigence pour réussir sa traction animale? Alors là, peut-être plus, je sais pas, de type de terrain. Enfin, vous en parliez un peu en début d'émission. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme qu'est-ce qu'il y a comme contraintes et exigences pour que ça soit intéressant de faire de la traction animale sur une exploitation agricole?
Alors, je dirais que déjà, je l'ai dit tout à l'heure, faut aimer les animaux. Deux, en prendre soin, prendre le temps de former le couple ou le trio, j'en sais rien. Et puis, y aller graduellement. Je rencontre des personnes qui ne sont pas issues du milieu agricole, ou même qui pour certains peuvent l'être, mais souvent des non-issues du milieu agricole, donc ils n'ont jamais vécu avec des animaux. Ils disent, moi, je me lance un projet de maraîchage, mais je veux pas du motoculteur, du tracteur, ça pollue, je vais prendre des chevaux. Puis aussi il y a une masure à côté, là je la rénove en même temps et puis je vais faire en vente directe. Là ils vont au casse-pipe, hein. Et j'en ai vu plusieurs abandonner au bout de 6 mois, 1 an. Hein. Donc c'est d'être graduel, dire voilà, le monde il est comme il est, on peut en penser ce qu'on veut, on va changer les choses, mais on va les changer tranquillement. Donc voilà, ceux qui veulent démarrer dans un projet économique, qui prennent un animal avec eux, par exemple, pour... apprendre à vivre avec lui au quotidien, sachant qu'ils ne feront pas grand-chose, mais ils vont déjà aller le manipuler, puis ils vont peut-être faire une promenade avec eux le week-end et s'en occuper un petit peu pour qu'il soit bien. Et puis, s'occuper avant tout de leur projet. Hein. S'il est économique, il faut que ça fonctionne. Hein. Donc, mettre en place le côté technique de son maraîchage, peut-être si c'est un projet de maraîchage, hein, ou de boulange, ou de je ne sais quoi. Et puis, une fois que ce projet-là va être en ordre, que financièrement, ça ne va plus être la galère, dire « Ok, je vais pouvoir envisager de me libérer peut-être un peu de temps pour travailler avec mes animaux. Hein. » Parce que globalement, ça demande des temps de travail qui sont plus longs qu'avec de la motorisation, sauf pour quelques applications particulières, effectivement, où on gagnera du temps avec des animaux, mais ce n'est quand même pas la majorité. Et sachant que vous prenez un outil motorisé, il est midi, 6h30, vous avez envie d'aller manger, vous coupez le contact, vous allez manger. Hein. Si vous avez des animaux, midi et demi, ok, je m'arrête, mais je vais dégarnir mes animaux, je vais leur mettre de l'eau, je vais les remettre soit à l'écurie, soit au champ, et après je vais m'occuper de moi, quoi. Et le matin, c'est pareil, on commence par s'occuper des animaux avant de s'occuper de soi. Donc, pour que ça fonctionne bien, il faut ne pas se mettre la pression et y aller graduellement dans son projet pour qu'il se passe bien dans le temps.
Et vaut mieux.
Et quand on a à se réapproprier beaucoup de choses, je conseille d'y aller gentiment, quoi.
Et vaut mieux avoir une petite surface.
La pression sur les animaux.
Et je suppose qu'il vaut mieux avoir une petite surface, en fait. C'est ça aussi.
Là, ça dépend des moyens qu'on se donne, des envies de chacun. Il y a un monsieur, là, il travaillait 40 hectares avec ses chevaux. Voilà, ils étaient deux sur la ferme. Lui, il ne s'occupait que de la partie. S'occuper de la partie travaux agricoles et sa femme s'occupait de la transformation et de la vente. Bon, donc lui, il était au quotidien avec ses chevaux à produire ses céréales. Alors, sur les 40 hectares, c'était pas 40 hectares en culture, mais il y avait quand même une vingtaine d'hectares en culture, quoi. Donc ça dépend des moyens de chacun, quoi. Ouais, il y a pas de règle. Après, c'est sûr que c'est plus accessible peut-être sur un petit projet de maraîchage où la personne va travailler sur un hectare. Et là, effectivement, avec des animaux, ça se fait tout seul. Non, mais c'est peut-être dans un premier temps plus accessible qu'en grande culture, quoi. D'ailleurs, parce que les compétences à acquérir sont moindres qu'en grande culture quand même, hein. Où là, il va falloir atteler des animaux, mais plusieurs animaux simultanément. Et déjà, quand on a appris à en atteler un, c'est bien. Donc moi, je propose des formations pour atteler un animal au départ, mais je montre aussi qu'on peut atteler deux animaux ensemble et je fais des formations aussi pour atteler deux animaux simultanément, quoi.
D'accord, très
Voilà.
bien. Bon, bah, c'est des formations que notamment propose le CIVAM, des stages entre une et deux sessions par an. On va vous remercier, Dominique Bourdon, pour
Ah,
cette
merci.
émission très instructive. Et puis, bah, on va vous souhaiter bonne continuation dans l'attraction.
Ben merci à vous et à vos auditeurs. Au
À
revoir.
bientôt. Au revoir.